Salut à tous et bienvenue dans le 18e podcast de la saison 3 de Vue du Banc, un épisode qui va être consacré au tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, les 8e et les 16e de finale qui auront lieu au mois de février il me semble, et aussi sur les matchs du week-end puisqu'il y a quand même eu un petit derby du côté de Manchester entre Manchester City et Manchester United et quelques matchs en Liga, Betis Atlético et Villarreal. Barça, puisque c'est notamment Christophe qui va m'accompagner aujourd'hui sur ce podcast, qui voulait en parler. Salut Christophe.
Salut Florent.
Mais on va pas démarrer par la Liga, on va démarrer plutôt par le derby entre Manchester United qui recevait Manchester City. Et City qui s'est donc imposé 2-1 grâce à des buts de Silva et Otamendi contre un but de Rashford. Christophe, sur ce match dans l'ensemble, déjà c'était le choc hein, en première ligue. Est-ce qu'on a été servi en termes de spectacle et d'intensité de spectacle?
D'intensité plutôt oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de rythme, même si ça allait pas d'un but à l'autre puisque City avait la majeure partie du temps le ballon, donc forcément c'était City qui dictait le rythme. Mais malgré tout, quand United le récupérait, United essayait de mettre du rythme pour partir en contre-attaque. Généralement c'était un petit peu voué à l'échec, mais même si c'était pas end-to-end, parce que finalement ça n'allait que d'un but, ça n'allait que sur un but, il y avait quand même plutôt du rythme, j'ai trouvé, puisque City essayait d'en mettre justement pour trouver des failles dans le bloc assez regroupé de United. Il y avait de l'intensité aussi, enfin, comme souvent en Angleterre, notamment dans les grands matchs, même quand il n'y a pas de rythme ou pas de spectacle, il y a quand même malgré tout cette intensité. Après, spectacle, c'est discutable dans la mesure où, bon, si tu juges à l'aune des buts, il y a trois buts, mais c'est trois buts relativement moches qui, en tout cas, naissent d'erreurs adverses. Donc c'est vrai que si tu dis mince, est-ce que le but est la résultante d'une action bien construite et de quelque chose de bien pensé en amont et tout, bah non. Après, oui, spectacle, oui et non, je trouve quand même que le plan ultra-défensif de Mourinho, qui peut se justifier, qui peut se comprendre face à l'intel adversaire, a quand même contribué à faire de ce match un truc assez unilatéral. C'était uniquement City qui cherche la faille à essayer de marquer, et les rares fois où Manchester United avait le ballon, sauf en toute fin de match ou alors juste après l'ouverture du score, où United a joué un peu plus haut. Sinon, c'était United qui essayait de résister et qui, quand il pouvait, essayait de mettre un contre. Mais c'est vrai que du coup, ça pouvait un peu ressembler finalement à tous les matchs de City face à des adversaires beaucoup plus petits, face à des Burnley, face à des Swansea, où l'équipe présumée plus faible se regroupe devant son but et essaye de mettre des contres. C'est vrai que ça peut être un petit peu décevant quant à Rashford, Martial sur les ailes, Lukaku devant et un milieu de terrain, même si on peut le voir comme plus destructeur qui est Matic Herrera par rapport à Silva, Fernandinho, De Bruyne. C'est quand même un milieu qui est capable de jouer au foot. Alors ok, il n'y a pas Pogba, n'empêche que oui, ça peut être quand même un petit peu décevant de dire que même United ne va pas faire le jeu, enfin ne va pas essayer de mettre un bloc médian et d'essayer d'aller chercher un petit peu City. En gros, tu peux te dire que 99% des équipes de première ligue vont défendre face à City. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un peu dommage, parce que je sais pas toi, mais moi j'aurais aimé peut-être voir un petit peu plus de variété, voir une équipe chercher City comme Naples a pu le faire. Alors peut-être pas forcément les mêmes proportions, mais au moins avoir un truc un petit peu différent que si c'était un City Everton de base, quoi.
Ouais, bah justement, on va un petit peu évoquer le plan de Mourinho en détail dans ce match, avec quelque chose qui pouvait se lire très vite d'entrée de jeu. C'était l'individuel, la quasi-individuel de Matic et d'Herrera sur Silva et De Bruyne lorsque ces derniers étaient positionnés, on va dire, entre les lignes, parce que quand De Bruyne décrochait par exemple à hauteur de ses défenseurs pour prendre la balle, il n'était pas agressé, il n'était pas suivi par Matic ou Herrera selon la zone. Et ça, déjà, ça a provoqué beaucoup de choses dans la première mi-temps, parce que autant en deuxième mi-temps, le match a un petit peu changé parce que City a repris l'avantage et puis la physionomie a un peu évolué parce que Manchester a essayé de garder un peu plus la balle, mais bon, ça a pas forcément très très bien marché après être mené 2-1. Mais du coup, la vraie bataille, c'était sur la première, avec donc cette action de Mourinho. C'était l'individuel sur on va dire les deux éléments les plus créatifs de City. et qui a provoqué une réaction chez Guardiola, c'est la suppression, on va dire, d'un numéro 9, puisque Gabriel Jesus est parti côté gauche, avec Sané qui a joué côté droit, et Raheem Sterling qui est revenu dans l'axe et qui a œuvré en tant que troisième milieu de terrain et qui a constamment en fait créé des situations de surnombre, puisque d'un côté tu avais Fernandinho, Silva, De Bruyne et Sterling qui s'ajoutaient, et de l'autre côté tu avais Matic, Herrera, et du coup un joueur comme Lingard qui était censé faire le lien sans doute sur les transitions, d'être le soutien à Lukaku pour mettre un Lukaku de remettre rapidement en une touche et en attendant que Martial et Rashford aient le temps de se projeter, ben un joueur comme Lingard a été obligé de reculer et de jouer quasiment à hauteur de ses milieux de terrain. Ce qui fait que United, ben leur bloc très bas était encore plus bas et avait encore moins de solutions pour sortir. Et à la. J'ai revu le match parce que je suis en train de finir d'écrire dessus. Et en fait, en plein match, il y a une analyse, c'était sur Sky Sports que j'ai revu ça, une analyse de Thierry Henry qui évoque justement ça, cette capacité qu'a eu City à couper on va dire, les circuits de sortie en obligeant Lingard à revenir défendre lui aussi, ce qui fait qu'il n'y avait plus que Lukaku devant et Manchester City réussissait à bloquer quasiment la quasi-totalité du bloc de United sur une vingtaine de mètres autour de sa surface. Et ça, déjà, pour prévenir les contre-attaques, c'était une grande partie du travail qui était déjà effectué, quoi.
Puis ce qu'il faut dire, c'est que là, tu parlais du match, du marquage individuel. Bon, je vois assez rapidement parce que ça tranche visuellement. On n'a pas forcément l'habitude de voir des adversaires se suivre l'un l'autre comme ça sur toute une partie du terrain. Faut dire que sur le premier quart d'heure, alors après, c'était un petit peu différent, mais à chaque fois que Matic, Herrera, tout ça, surtout Herrera, parce que Matic, c'était de l'individuel, mais un peu à distance quand même, surtout dans certaines zones, suivait notamment donc Silva pour Herrera. À chaque fois, ça déstructurait le bloc de United et ça laissait des énormes espaces dans l'axe. Alors ok, City n'en a pas profité, donc enfin, il n'y a pas eu d'énormes non plus occasions. C'était surtout des dernières touches de balles ratées, des contrôles, et notamment une remise quand Jesus s'est servi en profondeur, qui veut la remettre en intense sans se rendre compte qu'en fait il a un face-à-face à jouer. Mais sur ce premier quart d'heure-là, alors sur le coup, enfin, on a regardé le match ensemble, on s'est dit United va tenir quoi? Va tenir 25-30 minutes, mais c'est pas possible parce qu'il y a vraiment des énormes boulevards qui se créent dans l'axe dès que ça suit les décrochages et les permutations.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que tu parles des deux actions de Gabriel Jesus. Il y a aussi quelque chose que City a ajouté, c'est que ce surnombre au milieu de terrain, il l'utilisait totalement. C'est-à-dire que. Enfin, c'est tout con en plus comme principe, mais c'est souvent de toute façon les principes de Guardiola, c'est pas forcément des choses compliquées, c'est des choses qu'il faut oser faire. Et quant à, par exemple, moi je me suis fait la remarque en deuxième mi-temps notamment, parce que City a continué à jouer de cette façon-là, quand tu as De Bruyne, enfin quand tu as le surnombre qui est créé et que tu as deux joueurs, exemple Silva et Matic, qui sont sur deux adversaires, on va dire Sterling et Silva. Bah, si De Bruyne en position reculée, bah, il a de la place par rapport à Lingard parce que Lingard était sur Fernandinho. Qu'est-ce qu'il va faire De Bruyne de cette situation-là? Bah, ces deux partenaires qui ont un joueur de United sur le dos, bah, ils vont reculer, reculer, reculer. Et De Bruyne, il va avancer, 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 avancer. Et il y a une action, je crois que c'est en première mi-temps, où De Bruyne, il prend la balle, il est à la médiane. Et vu que tous ses partenaires lui créent de l'espace en reculant, enfin en avançant vers le but, vers le but, vers le but, ils amènent leurs adversaires directs. Et De Bruyne, il progresse, mais plein axe. Et je pense qu'il finit, il est contré par, il me semble, c'est Herrera qui change au dernier moment et qui contre, ou alors c'est un des défenseurs centraux. Mais voilà, il y avait aussi cette conduite de balle au milieu qui faisait que, bah, oui, ils avançaient sans être attaqués, sans être attaqués, sans être attaqués, parce que les mecs lâchaient pas leur marquage. Et en effet, dans la surface, après, c'était plus compliqué pour City parce qu'il y avait du monde et parce que, comme tu l'as dit, ils ont un petit peu déstructuré leur bloc à la finition, puisqu'il n'y avait plus de numéro 9, il n'y avait plus forcément de cible dans la surface, en tout cas de cible arrêtée. Et du coup, United s'en est sorti. Mais d'un autre côté, il y a cet avantage-là qu'on avait déjà eu contre Naples, c'est que City, cette année, a la capacité à faire la différence sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est un énorme atout, parce que quand tu es une équipe comme Manchester City, qui arrive à mettre le bloc de l'adversaire très bas et à le forcer à subir, bah forcément tu vas obtenir des coups de pied arrêtés. Et en plus, si tu es efficace sur coup de pied arrêté, bah tu as un gros atout supplémentaire pour faire la différence.
L'une des vraies questions de ce match-là, je sais pas ce que t'en penses, c'est est-ce que le, dire l'espèce de pari tactique de Guardiola, donc de délocaliser Jesus en tant que limite ailier, mettre Sterling en faux numéro 9, alors que pour le coup, même s'il devient de plus en plus complet, à la base, ça reste quand même un ailier assez primaire finalement, quelqu'un qui était surtout bon pour capacité à percuter, à dribbler, à dribbler et mettre. Mettre Sané sur de l'autre côté, donc sur un pied sur lequel il n'était pas forcément à l'aise. Est-ce que ça a suffisamment déstructuré et embêté United pour justifier le fait de mettre des joueurs qui sont pas forcément dans leur position naturelle de finition? Parce que j'ai l'impression qu'en fait ça a doublé le nombre de situations potentielles face au but adverse, mais que cette situation doublée, les trois quarts ont été un petit peu annihilés par le fait que Jesus n'est pas forcément à l'aise sur le côté, que Sané n'est pas forcément à l'aise de l'autre côté, et que Sterling jouant un peu plus bas, enfin, il n'a pas forcément les réflexes du numéro 9, même s'il peut occuper la position à divers moments, mais en plus en venant plus bas d'une position un petit peu plus de milieu offensif numéro 10 dans la zone occupée, n'avait pas forcément les réflexes que peuvent avoir des joueurs qui sont habitués à occuper ces zones-là en se projetant. Est-ce que tu trouves que c'était bien vu, ou alors est-ce que c'est limite de l'espèce de tactique tacticienne qui t'offre un avantage assez maigre parce que tu n'arrives pas à le concrétiser?
Non, moi je pense que c'était bien vu dans le sens où ça a complètement éteint la transition de United. Parce que quand United s'avance et aligne Lukaku, Rashford, Martial et Lingard, on peut dire ce qu'on veut de Mourinho, t'as quatre attaquants là. Au-delà du plan de jeu, en effet, qui était assez défensif, t'as quand même quatre attaquants et des joueurs qui peuvent être très dangereux pour jouer la transition. Le fait est que ces quatre-là ont quasiment rien eu à se mettre sous la dent, sauf sur des situations où, quand City était en possession, ce sont de grosses erreurs côté City qui ont offert les situations. Tu vois, quand Mourinho adore profiter des erreurs, City a vraiment limité les erreurs sur ce match-là, alors qu'ils ont eu quand même beaucoup plus l'initiative que leurs adversaires, en tout cas en première mi-temps. Après, à 2-1 en deuxième, ça a un petit peu changé la physionomie. Mais pour moi, c'est un pari réussi parce qu'il a totalement annihilé ce qu'aurait pu sans doute proposer United en attaque s'il n'y avait pas eu ces changements. Parce que dans ce cas-là, on aurait eu des situations où je pense que Matic et Herrera auraient sans doute eu plus d'opportunités pour sortir sur Silva ou De Bruyne. Donc plus d'opportunités peut-être pour récupérer la balle. Les défenseurs derrière. Je crois qu'il y a d'ailleurs une transition qui n'est pas menée à bout, mais justement sur un ballon gagné par Smalling ou Rojo sur un avant-centre. Je ne sais plus si c'était Jesus ou Sterling dans cette
Je
position
crois
à
que
ce
c'est une
moment-là.
passe. Ouais.
C'était en première mi-temps, l'action.
Je me souviens. Puis il y a eu deux, trois passes aux profondeurs un petit peu fortes pour Lukaku
Ouais,
ou
c'est
des
ça.
sorties d'Ederson, mais ça aurait pu jouer si ton gardien en face est un petit peu lent et si la passe est légèrement mieux dosée.
Ouais, les deux passes, t'avais des mauvaises transmissions. Je crois que c'était Sterling en tout début de match et je crois que c'est Delph qui rate la deuxième. Et en effet, c'est vrai que ça part en une touche sur Lukaku et là tu te dis, peut y avoir danger, mais ouais, en effet, la passe est pas bonne ou l'appel est pas coordonné. Enfin, voilà, sur la première mi-temps, c'est vraiment City qui a eu un contrôle total sur le match, qui a fait le scénario du match et Manchester a subi puisque les seules actions de Manchester c'est des grosses erreurs de City. C'est dans ce sens-là que je vois les choses et je pense que oui le pari de Guardiola sur ce match-là est réussi en tout cas sur le volet défensif parce que c'est vrai que sur la première mi-temps voilà à part des erreurs de son équipe United a rien à se mettre sous la dent et de l'autre côté par contre City a quand même à mon sens deux grosses occasions. T'en parlais tout à l'heure, mais les deux occasions de Gabriel Jesus, la première, en effet, il fait une talonnade alors qu'il est face au gardien, et la deuxième, c'est sur sa frappe où il met Rojo par terre, et en fait, il se précipite, parce qu'il a déjà lancé son enchaînement, alors que s'il continue d'aller fixer, il peut là encore avoir un contrat avec le gardien. Donc voilà, c'est des situations mal gérées à la fin, peut-être en effet parce que c'était pas les positions habituelles des joueurs, etc. Mais il y a quand même eu, à mon avis, les situations, même s'il faut quand même reconnaître que dans sa surface, United a fait preuve d'un certain sang-froid, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions à la limite, avec un latéral qui revient au dernier moment pour aider le défenseur, etc. Donc la défense de United a quand même plutôt bien tenu, malgré le fait que ben, son milieu, etc., ait beaucoup souffert.
Et c'est vrai qu'ils ont réussi aussi à sortir sur De Bruyne dès que De Bruyne arrivait à, on va dire, 25 mètres. dans les positions où ça commence à être dangereux de le laisser tout seul parce qu'avec sa frappe, ça peut vite partir. Notamment l'action dont tu parlais tout à l'heure où ouais, il remonte 25-30 mètres en limite en trottinant en petite foulée parce que tout le monde s'écarte et c'est Moïse. Et voilà, il arrive. Et là, tu te dis, il va arriver à 20 mètres et il va te défoncer derrière. Alors après, ce sera cadré, ça va être sorti, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu vois le pétard arriver de très loin. Et dès qu'il arrive à 25 mètres, là, tu as quand même un adversaire
Ouais, c'est vite sorti, ouais.
qui sort sur lui. Donc tu sentais que malgré tout ça, même s'il y avait des failles quand même dans le plan de jeu de Mourinho, alors dû au plan de jeu ou dû au fait que la réponse de l'adversaire était supérieure à ce que pouvaient proposer ses joueurs, ça c'est deux interprétations. Mais en tout cas, au moins là-dessus, tu n'avais pas de gros scandales, quoi. Tu n'avais pas des moments où tu avais un côté qui était totalement abandonné, ou alors l'axe à 25 mètres, où tu laissais tes adversaires frapper. Là, concrètement, City a eu assez peu d'occasions de tirer de manière libre. Effectivement, la population, la densité était assez forte à l'approche de la surface. Ouais, tu as les deux erreurs de Jesus, enfin, erreur. Comme tu disais, la première, il remet en une touche, mais parce que je pense qu'il s'attend pas. Il s'attend. Un, je pense qu'il s'attend déjà à ce que quelqu'un vienne en projection, forcément pour mettre le 1-2. Et deuxièmement, parce qu'il ne doit pas imaginer qu'en fait, toute la défense va se faire avoir là-dessus.
Oui, c'est ça.
Normalement, c'est pas logique. Finalement, tu es censé avoir un tout petit temps d'avance, mais pas assez pour faire contrôle frappe, pour la dévier, juste pour avoir le temps de remettre vers un partenaire qui, lui, ensuite arrive lancé face au but. C'était des occasions, enfin des types d'actions que tu avais souvent au Bayern avec Lewandowski qui remettait sur Vidal, des choses comme ça. Et ouais, la deuxième, je pense qu'il s'attend pas à ce que son espèce de petite feinte mette Roro sur les fesses, à son petit crossover à la Iversen. Ou alors à la Messi face à Boateng,
Ah, c'est vraiment le
selon
même.
la référence. Et je pense qu'en fait, dans son idée, il va juste se donner du temps pour frapper, et donc profiter de ce petit temps-là pour frapper. Alors qu'en fait, non, avec un adversaire sur les fesses, il a même l'espace, le temps, il a tout ce qu'il faut. Sauf qu'il est encore, ouais, il est juste dans l'enchaînement fin de frappe, quoi.
Ouais, c'est
Et
ça.
après, faut dire aussi que Jesus, c'est peut-être le seul truc où il est un petit peu en retard sur Agüero, même si Agüero. L'année dernière, je vais pas me le critiquer là-dessus parce qu'il était un petit peu décevant, mais c'est la finition. C'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur qui a beaucoup de qualités, notamment dans les petits espaces et pour faire participer ses partenaires au jeu, pour remettre voilà tout ce qui est jeu de position, remise, déplacement, et aussi pour le pressing parce qu'on l'a vu souvent sortir comme un chien, courir même des fois à limite tout seul pour aller mettre la pression quand tu avais genre par exemple une passe en retrait d'Herrera vers Smalling et Smalling se retrouvait. Enfin, dos tourné au jeu, plutôt à essayer de sauver la sortie de but. Enfin, la sortie de but, du coup, le corner. Et t'avais Jesus qui allait presser tout seul, alors qu'au final, voilà, une petite passe de Smalling l'éliminait. Mais tu sentais quand même qu'il y avait cette rage. Alors, Agüero commence à progresser un tout petit peu dans le jeu, dos au but, etc. Même si ça sera jamais sa grande force. Et surtout, commence vraiment à presser. Mais Jesus a tout le reste. Il y a juste la finition où il peut encore s'améliorer. Mais dans un match comme ça, où en gros tu savais qu'il n'y avait aucun espace, j'ai vu pas mal de journalistes anglais dire oui. Enfin, en plus, Guardiola gagne sans Agüero, qui est censé être l'un des meilleurs attaquants de première ligue, mais même de première ligue depuis 10 ans, voire même si tu remontes de l'histoire de la première ligue, niveau stats, ça doit être dans les. Enfin, si tu analyses, il doit être dans les 10 meilleurs avec des Henry, Shearer, Van Nistelrooy, etc. Mais dans un match comme ça, t'as pas forcément besoin d'Agüero qui t'aurait peut-être mis cette occasion-là, mais qui, je pense, n'aurait pas fait l'appel de Jesus ou n'aurait pas forcément réussi le dribble. Donc, vu que tu n'avais pas de champ, bah, c'était quand même le choix le plus pertinent. Et surtout, hein, on en avait parlé en regardant le match, Agüero qui se délocalise, qui dézone, etc. Un, je suis pas sûr que lui le fasse de bon cœur, et deuxièmement, je suis pas sûr que ça aurait été très très pertinent.
Ouais, et on peut parler aussi de la deuxième mi-temps avec ce changement immédiat. Enfin, en fait, la deuxième mi-temps, il y a deux temps. Il y a le temps à un partout quand ça revient où Guardiola prend quand même un risque avec l'entrée en jeu de Gundogan à la place de Kompany. Le risque étant le fait de mettre Fernandinho derrière parce que t'as quand même une dizaine de minutes où Fernandinho est pas bon du tout. Il souffre beaucoup, il se fait enrhumer par Lukaku, par Lingard et je crois par Rashford. Ça fait beaucoup quand même par rapport à la première mi-temps où tu avais des défenseurs qui étaient assez dominateurs pardon dans les duels. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit risque pris, bon qui a payé et on a pu constater que Guardiola savait déjà ce qu'il allait faire après puisque Mangala est rentré 4 minutes plus tard et est parti s'échauffer dès le but marqué quoi. C'était quelque chose qui était déjà en tête. Et ensuite, sur la dernière demi-heure, on a un match qui a quand même changé de physionomie, où on a une équipe de United qui essaie de garder un peu plus le ballon, sans grande réussite, parce qu'il suffisait d'un pressing, ou de De Bruyne, ou de Silva pour que le ballon soit rebalancé. Voilà, ça pose peut-être les limites du United sans Pogba, qui, dès qu'il prend la pression, peut-être allonge un peu trop. Après, j'ai pas assez vu l'équipe pour pouvoir tirer des conclusions, mais c'est vrai que sur ce match-là, leur capacité à se sortir du pressing était assez inexistante. Hein. Il suffisait d'une course de 30 mètres de De Bruyne et ça finissait sur un long ballon. Et ensuite, on a cette fin de match avec l'entrée des gros, Christophe, avec le duo Ibrahimovic-Lukaku avec Martial et Rashford sur les côtés. Et qui amène au final peut-être le seul bon mouvement de United du match, et cette occasion assez miraculeusement sortie par Ederson.
Ouais, la fin, c'était. Enfin, ce que je me disais, c'est qu'il manquait plus que Fellaini. Que si Fellaini avait été sur la feuille de match et qu'il avait pu rentrer, je pense qu'il aurait mis Fellaini en pointe, qu'il aurait limite encore en toute fin de match rajouté Smalling pour encore mettre des gabarits. Et c'est vrai que ça pouvait vraiment mettre City en difficulté, parce que même si c'est assez primaire, le fait de mettre la balle loin devant et de faire des déviations de la tête, bah ça, quand t'as de la présence devant, ça marche quand même assez régulièrement. Et même si c'était dans des conditions un petit peu différentes, parce que c'était pas avec une équipe déséquilibrée vers l'avant, mais si tu regardes la finale de C3 l'an dernier, Manchester-Ajax, Manchester gagne quasi uniquement, ou en tout cas fait une nette différence sur le fait que Fellaini est totalement injouable dans le domaine aérien, et qu'à chaque fois que tu allonges vite que tu allonges sur lui assez long, bah il dévie, et en fait ça fait à chaque fois limite une passe en profondeur, comme si tu avais servi ton numéro 10 qui ensuite te met une balle en profondeur sur l'ailier. Donc c'est vrai que là-dessus, forcément, comme City n'a pas les gabarits, même si au final c'est amusant parce qu'il marque sur deux coups de pied arrêtés, qui n'ont pas forcément été en danger sur les coups de pied arrêtés défensifs. Alors après, il n'y en a pas eu 15 000 pour Manchester, ce qui est aussi l'avantage de jouer très haut. Il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, bon, ok, City, belle équipe, tout ça, mais il marque sur deux coups de pied arrêtés. Oui, mais bon, tu as forcément plus de coups de pied arrêtés quand tu joues très haut.
Ouais, quand
Tu vas
tu domines.
mécaniquement obtenir des corners, tu vas obtenir des coups francs à 30 mètres parce que c'est là où tu as généralement la balle dans les pieds. Et inversement, tu vas peu en concéder parce que l'adversaire va assez peu venir te chercher dans ton camp. Mais c'est vrai que la fin de match était. Alors, elle aurait pu basculer. Moi, pour le coup, je sentais plutôt une égalisation de United. Mais
City
je trouve que.
a des situations aussi en transition, a été très bon,
Ouais.
où il manquait que la dernière passe en fait.
Ouais, déjà, t'en
Souvent.
as une première où, en première mi-temps, t'as Sané et Sterling qui font le même appel.
Ouais,
Et
c'est
De
vrai.
Bruyne, mécaniquement, je pense que même s'il voit Sané faire le truc, il doit se dire c'est un appel contre appel, mais il va pas aller là. La met sur l'aile alors que les deux plongent dans l'axe. Donc ça fait c'est un petit peu ridicule, mais c'est vrai qu'en fin de match, encore plus dans les toutes dernières minutes, où t'as Bernardo Silva qui en bouffe deux, où là effectivement tu sens le 3-1 à venir. Sinon, dans tous les cas, ça sentait quand même que le but, bon finalement il n'y en a pas eu, mais je trouve que City, alors avec une dose de pragmatisme, cynisme, t'appelles ça comme tu veux, mais en gros l'idée, enfin de ce que j'ai senti, c'était plutôt que de lutter dans le duel aérien, même si parfois il a fallu le faire et que Otamendi est à chaque fois parti au charbon, il a gagné les duels face à Zlatan qui en gros voulait jouer de son corps pour attendre la balle, genre contrôler de la poitrine ou autre, bah Otamendi il s'en foutait, il passait devant lui et
Il
il
avait
dégageait à l'arrache de la tête,
il obtenait la faute
ou il
aussi.
obtenait la faute, voilà,
Mangala
en
rentre
zone.
bien hein, dans ce registre défensif hein,
Bah clairement,
aussi.
c'est ce qu'on leur demande. Mais disons, il y a aussi l'autre aspect qui était de faire la faute au départ de la passe, quoi.
Ouais.
Et t'as eu, surtout sur les dernières minutes, mais un cynisme qui faisait qu'en gros, Silva, etc., eh ben, ils allaient faire une faute sur le quarterback en se disant, bon, si on fait la faute sur le mec qui fait la passe, qui est devant sa surface, bon, ça fait toujours gagner ça. Alors après, ok, tu vas devoir défendre le coup franc, mais c'était aussi une stratégie, et on peut trouver ça moche. Après, je pense pas que ça soit. Enfin, c'est pas parce que Guardiola prône une espèce de football offensif avec du beau jeu, du jeu au sol, que ça veut dire que ça doit être l'Immaculée Conception et qu'on peut pas lui pardonner, entre guillemets, le fait de faire une partie du football qui est un peu plus cynique au moment de garder son avantage, surtout que c'est quand même assez rare, parce que d'habitude, les adversaires ne sont pas suffisamment forts et même avec un but de retard, ils mettent pas forcément une grande pression, alors juste dans les dernières minutes. Et puis ça a pas mal marché, même les 2 dernières minutes, ou enfin même un peu plus. Où c'est à chaque fois touche et puis on fout une reprise de volée dans les jambes adverses pour obtenir une nouvelle touche. Alors c'est assez drôle, Mais c'est primaire, mais finalement c'est beaucoup plus efficace que de gagner, enfin que de se foutre au poteau de corner, de gagner 5 secondes et de perdre la balle parce que les mecs sont arrivés à 3 sur toi et te l'ont prise, quoi.
Mais de toute façon, faut, plus haut niveau, faut toujours une dose de cynisme. Hein. Avoir à quel degré, enfin, quelle dose tu mets, mais enfin, c'est pas, ça va, la faute tactique, elle est inhérente au football quand il faut jouer haut, hein, de toute façon. Enfin, ça va de pair. On va dire, c'est presque le dernier recours pour éviter de se prendre des contres. Donc, autant la faire à 60 mètres du but. Enfin, ça.
Bah ouais, en gros, t'essayes de récupérer la balle rapidement. Si t'arrives pas, tu sais que tu vas t'exposer sur la transition défensive, bah tu laisses traîner la jambe et
Et
tu
voilà.
fauches le mec et t'espères pas prendre de jaune. Et même, enfin même au Real qui joue moins haut, mais Casemiro fait 15 fautes tactiques par match, quoi. Malheureusement, c'est vrai que comme tu dis, il n'y a pas de. Sauf à mener 3-4-0 assez rapidement et se dire on fait l'impasse sur la faute et on espère bien gérer le 2 contre 2 sur le repli défensif. Ce que faisait d'ailleurs parfois le LOSC de Bielsa, qui, même s'il y avait quelques fautes tactiques, je pense que ce n'est pas forcément une volonté de Bielsa. Je pense que c'est aussi les joueurs qui étaient un petit peu jeunes et qui n'avaient pas forcément cette mentalité-là. Alors que Silva, De Bruyne, ça a beau être des très beaux joueurs. C'est aussi des gens qui sont dans le foot depuis un moment et qui connaissent les exigences du haut niveau et qui savent qu'il faut aussi en passer par là. Mais oui, il n'y a pas, sauf à accepter de te prendre le contre, bah sinon tu es un peu obligé, à partir du moment où tu joues très haut, de recourir à la faute tactique, quoi.
On va passer, je pense qu'on a fait le tour là, ça fait une bonne vingtaine de minutes sur ce derby. Donc City qui se retrouve avec 11 points d'avance sur United. Bon, bah, l'écart se creuse, hein. On verra jusqu'où se prolonge leur série, hein, puisqu'ils sont toujours sur une série d'une dizaine de victoires d'affilée, je crois, il me semble, à vérifier. Mais on va aller en
Je
Espagne.
crois que c'est 14, si je dis pas de
14,
bêtises. Mon
et
micro
ben.
était coupé. Ouais.
Eh ben, on va voir. On va partir en Espagne avec toi, puisque tu voulais nous parler de deux matchs en Liga. Et ben, on va commencer par Betis Atlético, puisque moi je n'ai vu aucun des deux. Donc vas-y, ta carte blanche. De quoi veux-tu parler? Je pense que ça va parler de Quique Setién un petit peu.
Ben en fait, ça va entrer en résonance avec le match de City contre United. Parce que c'est les deux matchs, alors j'ai pas vu 90 matchs, donc peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas c'est les deux matchs du week-end où tu avais le plus fort déséquilibre entre une équipe qui était là pour avoir la balle et l'autre qui était là pour ne pas l'avoir et en espérant profiter des erreurs de l'adversaire. Alors là où ça peut être vu comme choquant de façon de parler pour Manchester United de laisser autant le ballon parce que tu te dis t'es Manchester, enfin, moi en tout cas, je suis absolument pas supporter de Manchester United, mais je me dis, bon, ça doit quand même être bizarre dans un derby de te mettre dans une telle position d'infériorité et en gros de te dire, mon jeu est uniquement d'essayer de profiter des erreurs adverses. Voilà, tu te places dans la position du petit et je suis pas persuadé que philosophiquement, quand tu es Manchester United, soit quelque chose à faire. En plus, quand tu n'as pas la victoire, c'est-à-dire que tu es doublement perdant. C'est un petit peu différent concernant l'Atlético Madrid parce que tu n'as pas du tout cette tradition de domination, j'allais dire de beau jeu. Il y a ce qui est vraiment une tradition ultra beau jeu à Manchester comme il y a au Real. Bon, je pense que c'est moins le cas. Mais en tout cas, l'Atlético, c'est beaucoup plus des valeurs de combat. Même si c'est un club il y a une vraie histoire, malgré tout, tu restes un petit peu dans l'ombre de Barcelone et du Real, les deux chantres du beau jeu, le Real historiquement et Barcelone depuis Cruyff il y a 25 ans.
Mais le surnom, c'est les matelassiers, quoi. C'est
Voilà,
les prolos. Enfin voilà, c'est le club populaire de Madrid, même s'il y a aussi le Rayo Vallecano. Par rapport au Real, c'est le.
Voilà, donc, c'est-à-dire de tous les. En tout cas, entre guillemets, grand club européen avec une certaine histoire, je pense que c'est celui qui a le plus ces valeurs-là de combat et que ça te dérange le moins d'être dans une position un peu de victime, façon de parler, de petite équipe, c'est une espèce de fausse petite équipe dans sa manière de jouer. Et là, c'était amusant parce que l'Atlético se déplaçait sur le terrain du Bétis et le Bétis est coaché par, tu l'as dit, Quique Setién, qui est l'ancien entraîneur de Las Palmas, qui est un entraîneur qui. J'ai envie de dire que c'est Guardiola en plus extrême, parce que Guardiola, il considère que sa manière de jouer est la meilleure pour gagner des matchs et des titres, et pour l'instant, ça lui a pas trop donné tort. Donc même si son approche du jeu est romantique, sa vision est pragmatiste, puisque pour lui, il aura plus de chances de gagner comme ça qu'autrement. Il dit clairement, si je pensais que c'était en mettant des brins de 50 mètres que je gagnerais les matchs, bah, je ferais comme ça. Sétienne, c'est un petit peu différent, même si effectivement, il a aussi l'ambition de gagner. Lui, il y a quand même une proposition un peu philosophique, un peu éthique. Et il considère que le foot doit être, un petit peu comme Bielsa d'ailleurs, doit donner du plaisir aux gens, doit être offensif, etc. Et que pour un peu prolonger une espèce de vertu du foot, bah, tu dois avoir la balle, tu dois faire
On
jouer
est
de manière offensive, créer des choses.
sur le chaînon manquant entre Guardiola et Bielsa, en fait, au final.
Ouais, c'est un peu ça. Alors après, il n'a pas eu une carrière à la hauteur des deux autres.
Non, c'est vrai.
Et même là, bon, il avait très bien débuté le championnat. Là, c'est un petit peu plus difficile. Bon, il est en milieu de tableau avec. Il est 12e avec 6 points de marge sur la zone de relégation. Après, est-ce que le Betis a les éléments pour jouer beaucoup plus haut? Je suis pas persuadé. Mais c'est amusant parce qu'en fait, c'était typiquement. Alors, Setién a donné une interview à ESPN en anglais que je conseille avant le match. En disant très clairement, bah, moi, Simeone m'a jamais donné de leçons sur ma manière de jouer, il m'a jamais critiqué, mais moi, très clairement, je lui ai déjà dit sa façon de jouer, qui est magnifique, qui est beaucoup plus efficace que la mienne, et c'est un meilleur entraîneur que moi, mais pour moi, c'est de la merde, quoi. En gros, il a dit ça, il a dit, moi, je vais pas au cinéma pour voir des films d'horreur, donc je regarde pas du foot pour voir des équipes comme l'Atlético. Donc ça, alors je sais pas si Simeone a lu l'interview parce que c'était pas, enfin c'était sur un site d'ESPN, mais c'était pas non plus une interview télé en live devant 20 millions de personnes, donc je sais pas à quel point ça a circulé en Espagne. Mais en tout cas c'était drôle parce que tu as eu vraiment l'extrême, c'est-à-dire l'Atlético qui peut parfois malgré tout avoir le ballon face à des équipes qui lui laissent, face à, je sais pas moi par exemple Alavés, Leganés, des petites équipes comme ça qui jouent plutôt en contre, bah, l'Atlético aura le ballon même si ça sera pas forcément des propositions offensives très très élaborées et que tu auras malgré tout une partie de jeu direct, des centres, etc. Bah là, l'Atlético a vraiment joué regroupé devant son but. Je crois qu'en première mi-temps, l'Atlético est à 23% de possession et doit terminer à 26-27. Ce qui est quand même fou quand tu parles d'une équipe qui a fait deux finales européennes il n'y a pas si longtemps que ça, qui est l'une des 7-8 meilleures équipes d'Europe depuis 5-10 ans.
J'ai les stats sous les yeux.
Vas-y, dis-moi, fais-moi rêver.
Ça finit à 31%, c'est la stat sur la live score. Donc un peu plus. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout 5 tirs pour le Betis et 3 pour l'Atlético en 90 minutes de jeu.
Bah ouais, justement, ouais.
Et voilà. Avec
Bah
4 tirs
c'est.
cadrés pour le Betis et 2 pour l'Atlético, dont le but de Saúl Ñíguez, du coup.
Sachant qu'en plus, vu que t'as Oblak au but à l'Atlético, je pense qu'il faut quand même partir sur un assez large volume de tirs cadrés pour espérer marquer, parce qu'en face, c'est quand même très très solide. Et ouais, en fait, donc pour en venir au match, c'était vraiment le stéréotype d'un côté de l'Atlético qui dit, bah moi je veux pas la balle, et en gros, je veux profiter de tes erreurs, donc la même chose que Mourinho Manchester, mais là c'est de façon plus historique parce que c'est souvent le cas de Simeone dans les grands matchs. Et l'autre côté, une équipe du Betis qui dit bah tant mieux, moi j'aime bien avoir le ballon, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'avoir des espaces. Sauf que là, t'arrivais vraiment sur le problème inhérent, je pense, à la qualité des joueurs, qui est que il y avait vraiment des super sorties de balles, mais vraiment la qualité de jeu du Betis sur ce match-là est quand même assez incroyable. Sauf que dans les 30, 25, 30 derniers mètres adverses, t'as une qualité qui est moyenne. Là, je vais te donner les quatre joueurs offensifs. Sur le côté droit, t'as Joaquín, l'ancien de Valence, qui a à peu près 74 ans. De l'autre côté, t'as Cristian Tellio, qui est un joueur, donc l'ancien du Barça, qui est assez monomaniaque, dribble
Dribble de
intérieur,
tir,
frappe,
ouais.
et qui en plus n'est vraiment pas le meilleur dans ce registre-là. C'est un joueur de, voilà, c'est un joueur de Liga moyen. C'est pas Robben ou autre. En numéro 10, t'as Boudbouz, qui a bon en Ligue 1, mais là en Liga, il a du mal. C'est pas souvent ses passes, même quand il avait de l'espace, il avait des passes un petit peu mal dosées, trop longues, pas forcément toujours les bons choix. À la construction, ça allait, mais quand il fallait faire la différence sur la dernière passe, c'était plus compliqué. Et en pointe, Sergio Léone. Donc voilà, c'est pas
Là,
quand tu.
il manquait quelqu'un, il manquait Sanabria du coup,
Ouais,
qui à
Sanabria
mon
qui est
sens
leur
est
buteur.
leur buteur et qui fait une très bonne saison et qui est à mon avis, très bon avant-centre. Et peut-être que ça a pu leur manquer sur ce match-là, parce que je crois que Sergio Leone est quand même pas mal en retrait par
Ouais.
rapport à lui.
Ouais, et puis Sanabria, c'est 21 ans aussi. Hein, donc,
Ouais, très jeune, ouais.
en plus, t'as le côté. Bon, bien sûr, t'as le côté avenir de dire que ce sera peut-être un grand joueur, mais à cet âge-là, tu t'emmagasines beaucoup d'informations et tu peux voir la progression même d'une semaine sur l'autre, quoi. C'est quelqu'un qui était formé à Barcelone, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est passé par la Roma, donc il y a déjà un petit bagage. Bon, t'as Joel Campbell aussi, mais qui n'était pas sur la feuille, je crois qu'il était blessé. Enfin, toujours est-il que voilà, les quatre joueurs offensifs étaient moyens, même si voilà, Joaquin fait une bonne saison ou autre, mais quand tu compares de l'autre côté, où sur les ailes, t'as Koke Saoul et en pointe Gamero Correa, bon, c'est quand même pas le même niveau. Et c'est vrai qu'en fait, le Betis a fait tourner la balle, mais n'a jamais trouvé les décalages que pouvait trouver City avec, par exemple, De Bruyne ou Silva. Et je pense qu'en fait, tu mettais Setién, enfin, tu mettais les. On va dire les deux, voilà, les deux De Bruyne Silva au Bétis, peut-être avec un finisseur en plus, à voir. Ou alors tu mettais Setién dans le match de City. Je pense que ça peut. Enfin, t'as pas une énorme différence finalement. Je pense pas que le plan de Setién était moins bon spécifiquement que celui de Guardiola. Je pense que son jeu offensif est super élaboré. Le problème, c'est qu'on voit les limites de ça, qui est que quand t'as pas. Enfin, quand tu manques de talent. Alors moi, je suis presque persuadé que tu peux faire des belles choses avec des joueurs moyens et tu peux jouer de manière expansive et offensive. Mais quand tu arrives face à l'Atlético, qui est l'une des meilleures défenses d'Europe, qui joue en bloc très bas, très reculé, bah il faut quand même une qualité supérieure si tu veux espérer marquer, sauf à mettre un coup de pierrette ou autre. Et qu'ensuite, sinon, tu t'exposes. Et là, le but pris, qui est sur l'une des très très rares occasions, mais même sortie de balle de l'Atlético, qui est quasiment pas passé le milieu de terrain en première mi-temps, bah, c'est une erreur de Barragán, super joueur qui donnait des super centres, en tout cas super joueur sur le plan offensif, le latéral droit du Bétis, mais qui en fait ne suit pas un centre, une espèce de centre-tir au second poteau, il suit pas son adversaire, et c'est Saúl qui lui passe dans le dos, qui lui va jusqu'au bout, et qui pousse la balle à bout portant à 2 mètres du but, alors qu'il est 2 mètres derrière Barragán au début. Et voilà, c'est ta seule petite erreur, tu perds 1-0, et là je vois que Setién, qui est sur une série, je crois qu'il est sur un point en 5 matchs, quelque chose comme ça, commence à être discuté, et on se dit, est-ce que sa philosophie offensive est viable en Liga? Et c'est vrai que oui, mais quoi,
Mais pas contre les
c'est.
meilleurs, quoi.
Bah, mais pas contre les meilleurs, ou alors tu prends le risque, tu vois, t'avais le Rayo Vallecano de Paco Reyes qui jouait offensivement contre le Barça, qui avait entre 45 et 49%, voire même une fois contre Martino, il a eu plus de 50% de possession face au Barça, mais qui souvent mangeait des 4 ou des 5-0, parce que ça terminait à nombre d'actions égales. Un peu comme Bielsa finalement, t'avais 7-8 situations offensives de ton côté, il y en avait 7-8 de l'autre. Mais vu que tu t'exposais défensivement et que l'adversaire, lui au contraire, attendait en bloc bas, bah voilà, déjà tu devais plus travailler pour te créer des situations. Et en plus, si t'as pas les joueurs de qualité supérieure pour faire la différence, bah si t'as 8 occasions avec Sergio Leone et qu'en face il y a 8 occasions avec Gamero, bah forcément, bon là c'était l'exemple notamment du Rayo où c'était voilà, je crois qu'ils avaient pris 10-1. Je crois que le Real de mémoire,
Ouais, je
où
sais
ils avaient
plus.
continué à jouer quand ils étaient à 10 puis à 9,
Il y avait une
mais c'était
limite
souvent ça.
du 6-2, des
Ouais,
résultats comme
ouais.
ça aussi.
Et c'est vrai qu'au nombre d'occasions, enfin, à chaque fois, il terminait avec 15-20 tirs et il s'exposait beaucoup trop. Et au final, ça a fini par coûter sa tête à Remez. Enfin, ça a coûté la relégation au Rayo, puis à Remez quand il est parti à Grenade. Et c'est vrai que c'est une question. Alors là, je fais des constats, j'en tire pas de conclusion définitive, mais c'est toujours intéressant de voir aussi des petites équipes jouer au foot, parce que c'est aussi quand même pour ça qu'on aime ce jeu. Et je pense que les joueurs du Betis se sont vraiment fait plaisir sur ce match-là. D'ailleurs, à la sortie du match, t'as à la fois, je crois que c'est Boudbouze. Non, c'est Mandy qui dit je pense que c'est notre meilleur match de la saison, alors qu'ils ont quand même battu le Real. Et t'as Saúl, le premier mot en interview en bord de terrain, il dit waouh, le Betis, c'est quand même vraiment très 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 fort, ils nous ont vraiment bousculé. Sauf qu'au final, l'Atlético gagne parce qu'il y a des meilleurs joueurs. Et je pense que ça nous permet aussi, nous, de nous recentrer, ça nous fait un rappel, même si voilà, on commence à être au courant, mais sur le fait que ta tactique peut être super élaborée, super pertinente, tout ça, il y a quand même une composante qui est le niveau des joueurs que tu peux jamais enlever. Et est-ce que Mourinho, avec les joueurs de Guardiola, aurait pas fait quelque chose d'assez similaire? Je sais pas, mais en tout cas. Là, Setién, ce qu'il fait doit être jugé aussi à l'aune du matériel qu'il a. Et malheureusement, bah, quand tu joues l'Atlético, tu peux être très très bon. Tu vas être face à un adversaire qui va profiter de tes moindres erreurs. Donc au final, là, t'as l'Atlético qui est toujours invaincu, qui est troisième du championnat. Je pense pas que ça aille très très loin dans le sens où je les imagine quand même aller huitième, voire quart demi de Ligue Europa. Mais en championnat, ça me paraît quand même un petit peu court parce que quand tu es autant baladé par le Bétis, même si au final tu finis par gagner, c'est parce que tu as un taux de conversion de tes actions qui est 50% et parce que l'adversaire enfin, n'avait pas les joueurs pour faire la différence. Mais normalement, même en étant défensif face à une équipe qui aime bien avoir le ballon, C'est quand même risqué, c'est quand même pour moi un signe de faiblesse d'être à ce point-là mis sur le reculoir par rapport à il y a 2-3 ans où même, enfin, où même les matchs défensifs étaient quand même terminés avec 10 occasions et 40% de possession et pas avec 3-4 tirs et 30%.
Allez, ben on enchaîne après ce Betis Atlético. Tu voulais parler de Villarreal-Barça. Alors Villarreal, on va le garder un petit peu de côté, puisqu'on
Ouais.
va en reparler dans quelques minutes quand on va repasser les tirages de la Ligue Europa, puisque ce sont les adversaires de l'Olympique Lyonnais. Mais donc cette victoire du Barça à Villarreal. Alors il y a une question que je vais me remettre sous les yeux de Clem sur le Twitter @vudubanpodcast, et qui demande. Je te la pose vu que moi j'ai pas vu le match. Comment expliquer cette capacité du Barça à gagner en jouant mal, comme à Villarreal, alors qu'ils font match nul sur leurs deux matchs les plus aboutis ou presque de la saison en termes de jeu?
Ouais, bah c'est pas totalement faux. En tout cas, sur ce match-là, j'ai vu les expected goals, j'étais un petit peu choqué, peut-être pas, mais en tout cas surpris par le fait qu'il soit si haut. Alors, ok, t'as une barre et un poteau, mais n'empêche que dans le jeu, c'était vraiment très très compliqué. Je caricature à peine en disant que c'était d'abord je donne la balle à Messi et j'attends de voir ce qui se passe. C'est quand même un plan de jeu assez limité que près n'importe qui peut faire. Et ensuite, je donne la balle à Messi, qui la donne à Alba, et on espère que le centre d'Alba retrouve Messi ou trouve quelqu'un d'autre et soit coupé dans la surface. Mais c'est vrai que c'était, je n'ai plus les chiffres en tête. Enfin, je les ai vus passer. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 14 passes de l'un vers l'autre et 16 dans l'autre sens, quelque chose comme ça. Des chiffres vraiment, vraiment assez élevés, surtout pour une connexion attaquant de pointe latérale qui est pas forcément la plus évidente géographiquement parlant, géométriquement parlant, quand tu regardes la disposition des joueurs sur le terrain à première vue. Alors, le Barça pour moi, c'est. Enfin, à l'époque, ça parlait souvent dès qu'il y avait une défaite ou deux. Ah, est-ce que c'est la fin de cycle? Est-ce que c'est la fin de cycle? Au final, le cycle, il s'est vraiment coupé. À partir du moment où tu as pris Martino, il y a quand même eu un changement dans le style de jeu, une coupure après les années Guardiola. Là, je pense qu'on est encore sur un nouveau cycle par rapport à Luis Enrique. Luis Enrique, c'était bon, une équipe, toute une partie de l'équipe défend, et ensuite on essaie de donner la balle aux attaquants, et ensuite les trois attaquants, qui sont trois des 10 meilleurs attaquants du monde, se démerdent pour essayer de trouver la solution, à peu de choses près. Là, c'est vraiment un Barcelone qui ressemble un petit peu, je sais pas, peut-être un petit peu au Brésil, où finalement, tu as des joueurs très doués offensivement, mais d'abord, c'est bien défendre. Tu défends en 4-4-2 très, très solide. Tu as ton double pivot. Là, c'était Paulinho Busquets qui est finalement assez proche des deux défenseurs centraux. C'est pour ça que tu prends très peu de buts. Hein. Le Barça a pris 7 buts en 15 matchs en championnat et pas beaucoup en Ligue des Champions. Et finalement, là, la question de l'auditeur, c'était sur les matchs les plus aboutis. Je pense que justement, c'était les matchs les plus aboutis offensivement. Et c'est parfois ça qu'on retient un petit peu parce que oui, le Barça, c'est la capacité à tenir le ballon, à faire des décalages, mais les deux matchs, je pense que donc il fait référence à ceux en championnat qui sont à Valence et face au Celta. C'est des matchs où, surtout face au Celta qui a essayé de jouer, bah, tu es un petit peu tombé dans leur jeu. Le Barça a
Ça s'est
essayé de jouer
emballé.
aussi.
Ça s'est
Ça
emballé.
s'est un petit peu trop emballé. Et ce Barça-là n'est pas forcément fait pour défendre les transitions. Avant, ils pouvaient les défendre, mais parce qu'ils jouaient très haut, et donc comme si maintenant, quoi, il y avait les fautes tactiques, il y avait les récupérations assez hautes. Là, sur ce match-là contre Villarreal, tu as une récupération haute où Busquets intercepte une passe. Bon, on le voit pas en direct parce que le réalisateur est occupé à filmer je ne sais quoi après le 6 mètres, mais donc du coup, Busquets intercepte la passe, lance Messi qui marque le deuxième but. Mais sinon, c'est quand même une équipe assez peu séduisante finalement. C'est une espèce de bloc compact. Et devant, tu donnes souvent la balle à ton meilleur joueur, parce que même Suarez, même si, enfin, il fait les déplacements, mais ses déplacements sont pas forcément toujours ultra pertinents. Tu sens que des fois, il se perd un peu, il sait pas trop quelle zone occuper, et puis à la finition, il est pas sur une grande confiance. Alors que face au Celta, bah, tu as un peu joué comme l'ancien Barcelone, mais comme veut jouer le Celta, et finalement, c'est pas dans cette configuration-là que tu es à l'aise. Et tu vois, imagine si tu jouais un jeu un peu partant dans tous les sens sur ce match-là contre Villarreal avec des latéraux, bon, Alba, ok, mais qui n'est pas celui qui se replie le plus, Sergi Roberto de l'autre côté, et Piqué Vermaelen dans l'axe. Bah, clairement, ça pourrait être risqué quand en face, tu as par exemple Bakambu qui part toujours à 50 à l'heure ou à 100 à l'heure en contre-attaque. Donc Villarreal a eu pas mal d'occasions sur justement à chaque fois que Barcelone s'exposait un petit peu trop et montait un petit peu trop pour faire des différences offensives. Bah sur chaque contre, c'était dangereux parce que Villarreal peut vite se projeter vers l'avant. Et en fait, j'ai l'impression que Barcelone va être. Alors, je caricature, mais même pas forcément, parce que tu vois, je te parlais des plans de jeu, et le plan de jeu est aussi toujours corrélé à la qualité des joueurs. Je suis pas persuadé que ce Barcelone-là joue beaucoup mieux que le Real de Capello, par exemple. Je pense que forcément, quand t'as Messi, et que tu lui donnes la balle, et qu'il élimine 3-4 mecs sur 40 mètres, bah, au final, ton plan de jeu est le même que si tu donnais la balle, je sais pas, à Rulio Batista, sauf que lui n'arrive qu'à dribbler un seul joueur, et ensuite va remettre en retrait. Mais au final, ton nombre de passes et la manière dont tu construis tes actions est pareil. Donc, c'est vrai que Barcelone, c'est pas. Genre là, sur ce match-là, honnêtement, j'ai pas trouvé ça bien. À la mi-temps, c'était même. Honnêtement, je me demandais un petit peu ce que je foutais devant ma télé là, un dimanche soir à regarder ça. Ça gagne 2-0, c'est très solide, ça concède relativement peu d'occasions, ça en concède un peu, mais t'as Ter Stegen qui est aussi un super gardien dans les buts, donc ça passe. Je vois quand même le Barça être champion parce que l'avance prise sur le Real, qui est la seule équipe qui est quand même. Je pense meilleur offensivement parce que Valence vit quand même sur deux trois individualités comme Zaza Rodrigo qui sont pas des monstres de régularité, qui sont a priori en sur-régime. En plus, Guedes est pété et l'Atlético a vraiment beaucoup de mal à créer. Donc, je pense que l'avance déjà construite va permettre à Barcelone de tenir. Je pense qu'il y aura très très peu de défaites cette saison. Je suis même pas convaincu que, bon, invincible, ça me paraît difficile, mais là, il y a 12 victoires, 3 nuls en 15 matchs. Je pense pas que Barcelone perdra plus de 2 matchs cette saison. Je le sens comme ça. Mais c'est vraiment pas flamboyant et je comprends que quand t'es suiveur barcelonais, il y a Yanis notamment qu'on connaît tous les deux sur Twitter qui disait qu'en gros Barcelone c'était comme le Real sauf que enfin les deux jouaient mal sauf que le Real ne convertissait pas ses occasions alors que Barcelone le fait. Et il y a un peu de ça et c'est vrai que c'est pas très abouti. Alors deux possibilités, soit tu dis c'est bien d'être leader avec quasiment aucun point lâché en route avec un jeu peu abouti en tout cas offensivement parce que défensivement c'est super solide, soit tu te dis la tradition barcelonaise depuis 25-30 ans est fondée sur le beau jeu. Et ça serait dommage de rentrer dans une spirale où tu sacrifies un petit peu ça pour avoir des victoires, parce que quand Messi aura 2-3 ans de plus et qu'il sera plus forcément capable de faire les différences, bah tu seras sur un jeu plus typé Paulinho-Rakitic 2017 que sur Messi-Busquets 2011, quoi.
Enfin, moi perso sur ce sujet-là, et puis on va passer après sur les tirages. Enfin, quand tu prends Valverde, quand tu sais ce qu'a fait Valverde à Bilbao, t'es pas très surpris en fait de cette transition-là au final. T'es sur un coach qui à Bilbao, il y avait quand même cette ADN toujours anglaise qu'il a retrouvée. Alors il a repris l'équipe après Bielsa. Il a gardé quelques points de cette équipe-là, notamment le pressing. Mais c'est vrai qu'avec la balle, c'était quelque chose d'assez basique. En tout cas, beaucoup moins élaboré que ce que faisait Bielsa. Et là, au final, il arrive après Luis Enrique. Et la saison dernière déjà, le Barça termine la saison, ou fait même une bonne partie de la saison. Et même, au final, ça traîne depuis le titre avec la MSN. On est sur un Barça qui défendait déjà en 4-4-2. Avec Neymar qui revenait côté gauche et qui complétait la ligne de 4, et Rakitic qui protégeait le flanc droit, et Messi Suarez qui restait devant. Et ça, aujourd'hui, on est sur la prolongation de ce système-là sur le plan défensif, sauf qu'il a été renforcé au milieu par l'arrivée de Paulinho. Et en plus, il a été, on va dire, on a perdu en talent, puisque Neymar est parti, et que malheureusement pour le Barça, t'as Dembélé qui est blessé en ce moment et qu'on n'a pas eu le temps de voir aussi avec cette équipe. Donc, ce qui va être intéressant à court terme et avant la Ligue des Champions en février, ça va être de voir dans quel état justement va revenir un joueur comme Dembélé, et ce qui va être capable de changer des choses à cette équipe, et enfin de changer des choses. Au final, ils ont les résultats qui leur permettent de voir venir et de pas forcément chercher une amélioration. Mais c'est vrai que en Ligue des Champions, il y aura sans doute besoin d'autres talents que Messi pour faire la différence, et peut-être qu'un joueur comme Dembélé peut leur permettre d'être pas forcément meilleur collectivement, mais à avoir d'autres solutions individuelles en fait pour faire la différence.
Ouais, et puis t'as Iniesta aussi qui forcément fait son âge, mais quand il joue, c'est généralement plutôt bon. Il y a certains matchs qui sont vraiment très 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 bons.
Qui joue côté gauche du coup.
Ouais. Bon là c'était à la place c'était Denis Suarez, donc on va dire c'est le même en moins bien quoi, en plus jeune, mais il a les On dirait qu'il a les mêmes profils, mais c'est pas du tout le même niveau. Mais ouais, c'est vrai que, enfin, quand tu vois le double pivot Busquets-Paulinho, tu dis effectivement, on a quand même fait un petit peu de chemin depuis quelques années. Et pareil, les entrées. L'année dernière, par exemple, tu avais encore de temps en temps. Alors, je suis pas persuadé que ce soit une bonne solution, mais c'est pour parler du style de joueur. Tu avais André Gomes qui était souvent intégré dans l'entrejeu.
Ouais,
Bon,
il est totalement disparu là cette année.
là, c'est bon. Là, il est rentré sur la toute fin de match. On a pu voir sa belle coupe de cheveux, mais c'est effectivement, il a quasiment pas joué de la saison. Et je pense que pour lui, l'avenir est complètement bouché, quoi.
On va enchaîner avec la Ligue des Champions. Bah justement, il y a une question qu'on va évacuer d'abord sur Barça-Chelsea. Une question de Lampard, Frankie 8 Lampard. Quelles sont les chances de Chelsea face au Barça, justement, sachant que le retour est au Camp Nou. On va évacuer celle-là et puis après on passera au gros morceau Real PSG.
Bonne question. Je pense que du coup, le style de jeu du Barça actuel fait qu'il sera beaucoup moins vulnérable que n'aurait pu être le Barça de Luis Enrique qui aurait subi la déferlante hasard à chaque fois que le positionnement était un petit peu déséquilibré, un petit peu trop offensif et le côté mal bloqué. Je pense quand même que c'est pas très loin d'être du 50-50, quoi. Je pense que c'est pas très révolutionnaire ce que je veux dire, mais ça va aussi dépendre de la capacité de Messi et d'un degré moindre de Hazard à faire la différence, qui sont quand même deux talents supérieurs. Sinon, je pense que ça n'y aura pas forcément d'énormes envolées, que Barcelone aura un peu plus le ballon, mais va pas l'avoir dans les zones à 25 mètres du but adverse, aura plus un peu au-delà du rond central, et que Chelsea va essayer de profiter de ces situations pour mettre des comptes. Ça va pas être du 75-25, je pense que c'est plutôt du 60-40 niveau possession. A priori, je vois un match plutôt équilibré. Après, ça dépend aussi comment est Chelsea. C'est une plus grosse variable que Barcelone pour moi sur le côté soutien d'effectifs des joueurs à compter, forme physique en février après avoir eu le Boxing Day. Où est-ce que Chelsea en sera en championnat? Est-ce que la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions sera en danger ou pas? Je pense que Barcelone est légèrement favori. Mais Chelsea, là, sur la première phase de Ligue des Champions, alors ok, ils ne sortent pas premier du groupe. Mais par exemple, tu regardes le dernier match contre l'Atlético, il y a quand même de très bonnes séquences. Ce match-là, ils doivent le gagner, même avec une équipe qui avait tourné. Je pense que ce sera quand même un match intéressant. Je ne suis pas persuadé que ce soit ultra spectaculaire, mais il y aura des choses à voir.
Ouais, mais justement, on va parler de ces huitièmes de finale. Donc, je vais tous les citer et puis on va s'arrêter sur 2-3. Bayern Beşiktaş, donc ça servait bien de terminer premier du groupe pour le PSG, hein, puisque le deuxième se prend le Beşiktaş. Porto Liverpool, Bâle Manchester City, Séville Manchester United, Chelsea Barcelone, Shakhtar Roma, Real PSG et Juventus Tottenham. Christophe, d'abord un mot sur ce Real PSG. On a quand même vu énormément de pessimistes sur Twitter après le tirage, alors qu'au final, à l'instant T, le PSG a pas forcément à avoir très très avoir peur du Real, quoi. Enfin, à mon sens, c'est aujourd'hui c'est 50-50 et peut-être qu'en février, comme je te le disais hors antenne, en février, peut-être que le Real, par l'expérience, ça sera 60-40 en faveur du Real. Mais bon, sur une confrontation comme ça, il y a match, quoi, largement.
Bah pour moi c'est même alors je comprends ton 50-50 parce qu'après Bayern PSG du coup faut un petit peu recentrer le truc, mais si tu m'as demandé il y a 10 jours je t'aurais même dit 60-40 pour le PSG quoi. Suffit de voir en Espagne sur les journaux madrilènes Marca faisait un petit truc d'étoiles et en gros t'avais autant d'étoiles à la fin pour les deux équipes et c'est le directeur de AS, une espèce de supporter ultra du Real qui était filmé par AS pendant le tirage, et quand il a vu le PSG sortir, il était totalement effondré.
Oui, livide.
Il était livide, absolument. Je pense que c'est un tirage qui arrange personne, le Real, parce que c'est malgré tout, tu as quand même certaines faiblesses défensives sur les transitions qui risquent de faire très mal si tu as Mbappé qui prend l'espace. C'est pas le seul, mais il y a parfois certains oublis. Alors des fois c'est une mauvaise gestion de la transition où le bloc est mal organisé, des fois c'est simplement des craquages individuels où notamment Ramos qui des fois rate des relances mais tu te demandes comment c'est possible, même Varane. Alors ça tu te dis ça doit être des soucis de concentration parce que les matchs sont pas suffisamment importants, parce que tu as trop gagné, t'es plus sur le même niveau d'exigence personnelle, mais tu fais ça face au PSG, tu vas le payer très cher. Alors le PSG a aussi des limites qui peuvent être exposées au grand jour comme elles l'ont été face au Bayern. Mais ouais, moi je mettrais même le PSG légèrement favori à l'heure actuelle. Je pense qu'en février ce sera plus forcément le cas. À voir aussi qui sera disponible parce que ça peut faire une énorme différence. Le Real a des blessés de manière continue. Si t'as un 11 qui se dégage de nouveau, peut-être qu'il y a des certitudes qui vont être trouvées. Mais cette équipe-là est tellement irrégulière. Si c'est la première mi-temps contre Séville, Séville qui n'est pas défendu du tout, mais où ça fait 5-0 au bout de 40 minutes, là ça sera compliqué. Si c'est le Real qui a eu, mais sur la moitié des matchs cette saison, parce qu'au-delà des points gâchés laissés en route, t'as quand même eu beaucoup de victoires 2-1, 1-0. Je crois qu'il y en a une contre Alavés ou Leganés où c'est où il y a très très peu de choses et l'adversaire peut égaliser. Ils s'en sortent limite par miracle, en tout cas assez chanceusement, de pas concéder l'égalisation. Je pense que si le Real joue à 50% maintenant, effectivement, ce sera dur. Mais si le Real qu'on voit maintenant, quand même, depuis voilà, en décembre, hein, donc ça fait quand même 4 bons mois que la saison a repris. Si c'est ce vrai Real-là, le Real de cette saison, ben, tu peux gagner les deux matchs, hein.
Il y a un petit match-up, même si c'est loin. Je pense qu'on aura le temps de refaire une preview de ce match. Mais le match-up Marcelo-Mbappé, si Marcelo est aussi lâche dans le repli que les saisons précédentes, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, une piste. De toute façon, on aura largement le temps de reparler de ce match avant qu'il arrive.
Sachant que là, Marcelo est en hibernation. Ça
Oui, c'est
fait
vrai. Bah, c'est
3-4
l'hiver, c'est
mois,
normal.
ça fait pas du tout. Ah, mais même en août, hein, ça n'allait pas trop. Depuis la Super Coupe, je crois. Je crois qu'il était dedans et qu'il n'était pas mauvais, mais sinon, c'est vraiment pas ça. Alors, c'est meilleur que pas mal de latéraux de Ligue 1, mais par rapport au vrai Marcelo, on n'est pas du tout sur le même joueur.
Sur les autres affiches, rapidement, est-ce que il y en a quelques-unes que tu veux évoquer? Moi perso, le Juventus Tottenham risque d'être un bel affrontement tactique entre Pochettino et Allegri, vu que les deux ont l'habitude de faire déjouer leurs adversaires quand ils sont au plus haut niveau. Qui va faire le plus déjouer qui? Voilà, ça va être un petit
Est-ce
peu
que la
ça.
Juve, notamment le défenseur central, pourront relancer sous pression? Parce que Tottenham va presser très haut. Il y a des équipes dont, enfin là par exemple, je pense que si Mourinho avait pressé les défenseurs centraux de City plus tôt, notamment Mangala, bah, tu aurais pu avoir des situations. Je pense qu'un Benatia, par exemple, c'est moins bon relanceur que Bonucci. Bon, c'est pas je pense, c'est sûr. Mais si tu vas vraiment presser comme tu l'as fait certaines fois en première ligue. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose aussi. Alexandro, pareil, en parlant de latéraux endormi, qui n'est vraiment pas là. Je pense que ça joue vraiment, contrairement au Tottenham des années précédentes, où il y avait un gros problème. En plus, là, Tottenham est un peu hors du coup en championnat. Il y a vraiment des trucs à voir aussi, hein.
Et puis un petit, enfin deux matchs quand même entre, on va dire des outsiders ou des seconds couteaux entre Shakhtar Donetsk et la Roma, Porto et Liverpool, qui garantit qu'il y aura, on va dire deux petits entre guillemets là encore en quart de finale. Ça va peut-être un petit peu changer le plateau parce que c'est vrai que ces huitièmes là, perso je les trouve intéressants parce qu'il y a beaucoup d'affiches inédites en fait. Alors évidemment il y a le Chelsea-Barça. Mais le reste, sur des confrontations à élimination directe, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, quoi.
Ouais, il y a quasiment aucun match inintéressant. Il y en a deux qui sont très équilibrés. C'est Bâle City, où même si Bâle va finalement assez régulièrement en huitième pour une équipe d'un championnat relativement mineur, je pense que face à City, ça va quand même être compliqué. Et puis l'autre, c'est Beşiktaş Bayern, où j'imagine mal le Bayern tomber dans le côté folie d'un but à l'autre de Beşiktaş. Et même si c'était le cas,
Ils
ça a
sont plus
déjà
forts.
été le cas avec le Bayern, ils sont beaucoup plus forts à ce jeu-là. Et ok, Quaresma et compagnie, Babel, même pour leur âge, ça va très vite. Mais si tu joues à ça, t'as Coman de l'autre côté, quoi. T'auras Coman, t'auras Ribéry 2017, enfin 2018 du coup, plus fort que jamais à la Terminator, qui s'est remis à courir. Enfin, donc je pense que ces matchs-là sont déséquilibrés. Celui qui m'intéresse, mais j'ai peur que ça soit en fait pas très intéressant du tout, c'est Séville
Ouais.
Manchester United. Je pense que malheureusement, ça va faire la version extrême de Betis Atlético, par exemple, où du coup, un petit peu ce que Séville a pris face au Real, c'est-à-dire que ça construit. Ça essaye de faire des choses, mais à la moindre perte de balle, si en plus tu perds la balle pas en zone offensive, mais en zone médiane, Manchester va se projeter, ça va balancer sur Lingard, sur Martial qui vont faire des sprints, et Mercado, compagnie vont voir des espèces de trucs passer à toute vitesse, ils vont pas trop comprendre. Et j'ai peur que ça défile. Après, si Séville bon, retrouve Berizzo, qui par exemple a été soigné de son cancer, il est pas sur le banc, s'il revient, peut-être que voilà, il va recadrer un peu le truc,
Berizzo qui avait
mais.
croisé United l'année dernière, du coup, aussi,
Ouais.
en demi-finale, et il n'était pas passé loin de s'en sortir. Et puis
Ouais, bah
finalement,
ça se
ouais,
joue
à
un
Guidetti,
tir de
de Guidetti dans les... Ouais,
Guidetti
c'est ça.
et Beauvue dans les enfin dans toute fin de prolongation, sinon le Celta se qualifie. Et ouais, aussi tu auras pu Nzonzi, alors comment est-ce que tu organiseras ton milieu, parce que c'était quand même un joueur essentiel dans ta manière de procéder. J'ai peur que ça soit déséquilibré, que ça soit les forces de Manchester se rentrent pile sur les faiblesses de Séville. Mais ça peut quand même être sympa. Séville a quand même du mental, on l'a vu face à Liverpool. Si ça tient, que ça s'expose pas trop, j'espère qu'il y aura un peu de spectacle, parce que Séville est quand même plutôt une équipe joueuse. Donc s'il pouvait y avoir un petit peu match, ça serait sympa.
Allez, on termine avec les matchs de Ligue Europa. Alors, je les ai sous les yeux. Au final, la plus grosse affiche, je pense qu'on va être d'accord, ça va être le Naples-Leipzig. Si on
Ouais,
peut
bah t'as
parler.
deux affrontements italo-alémaniques, Borussia-Atalanta
Ouais, c'est
et
vrai.
Naples-Leipzig, sauf que Leipzig est actuellement meilleur que le Borussia et que Naples est largement au-dessus de l'Atalanta, donc c'est les deux des plus beaux matchs, mais c'est vrai que le Naples-Leipzig, c'est quasiment le favori de la compétition, si tu mets avec Arsenal et l'Atlético, face à Leipzig qui est un bon outsider et qui est une vraie bonne équipe européenne.
Et à voir si Naples joue cette compétition à fond, à l'instant
Aussi.
T, on peut en douter. On en parlait déjà la semaine dernière. Vous pouvez écouter le podcast d'ailleurs, puisque là, on les enchaîne là dernièrement, donc
Mais d'ailleurs,
vous avez peut-être le temps de les écouter.
je suis pas sûr que Leipzig la joue à fond non plus. Hein. Mais en tout cas, ils
Ouais.
avaient pas l'air. Si tu lis les déclats, ils avaient pas l'air forcément déçus de leur élimination en Ligue des Champions. Ils ont dit ouais, bon, on apprend, on était là pour voir. Enfin, en tout cas, ils m'ont pas donné l'impression d'une équipe qui était super déçue d'être éliminée de la plus grosse compétition européenne. Généralement, c'est pas forcément un bon présage pour encore plus t'impliquer dans une compétition moindre. Donc, à voir. J'espère qu'on sera pas déçu. En tout cas, sur le terrain, tu auras quand même des bons joueurs. Même les équipes A' de ces deux clubs ont quand même la philosophie de leur entraîneur. Donc, c'est quand même, ne serait-ce que pour l'affrontement tactique, peu importe la qualité des joueurs sur le terrain, il y aura quand même des choses à analyser sur le fait qu'une équipe joue de manière très verticale. Enfin, les deux équipes jouent finalement assez, de manière assez verticale. Mais l'une pose beaucoup plus son jeu alors que Leipzig va être beaucoup plus dans la transition permanente et pour le coup relancer beaucoup moins proprement et beaucoup plus chercher rapidement la passe qui tue.
On va rapidement parler des matchs des trois clubs français. On commence par Marseille, Marseille-Braga. Au final, quand tu vois le tirage, enfin, les équipes qui étaient présentes en tant que tête de série, tu peux te dire, même si personnellement je connais pas Braga, mais par rapport à ce qu'ils auraient pu prendre, c'est quand même une des équipes les moins relevées, quoi, les moins compliquées à jouer.
Ouais, bon, on connaît pas Braga, donc on va pas s'aventurer sur le
Sur le
terrain
papier.
d'analyser leur jeu. Mais
Sur le
c'est vrai que
papier, en tout cas,
sur
ouais.
le papier, un, le nombre des joueurs qui nous parlent pas forcément, et secondo, les résultats en championnat qui sont bons et qui sont pas exceptionnels. Et voilà, et si tu même analyses les résultats sur la première phase, Braga semble être un adversaire prenable, jouable. Après, ça veut pas dire que tu vas te qualifier. Je pense que ça sera quand même très compliqué. J'imagine pas 2 victoires, 3-0. Mais c'est sûr que il y avait bien pire. Là, c'est un mystère. Il y en a d'autres, c'est pas un mystère. Tu savais que c'était injouable ou quasiment, quoi.
On enchaîne avec Nice qui va affronter le Lokomotiv Moscou qui donc est en tête lui par contre de son championnat et a 2-3 joueurs, Christophe, qu'on connaît bien en Ligue 1 mais aussi ailleurs.
Bah déjà en tête de son championnat, il faut quand même resituer. Alors des fois, ça, les performances se transposent pas forcément d'une compétition à l'autre, mais 8 points d'avance sur le Zénith, le Spartak et le CSKA est à 9, 10 points même. Quand je pense que le CSKA a failli sortir de la poule avec Bâle et Manchester et que le Zénith a écrasé sa poule et a recruté toute la colonie argentine des Mamana, Paredes, Driussi, je crois, etc. Tu dis que le Lokomotiv est autant d'avance sur ces équipes-là en championnat, c'est quand même synonyme de quelque chose. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue bien, enfin qui en tout cas est douée. Je sais pas si elle joue bien, j'avoue que je l'ai pas spécialement vue. Et c'est vrai que ouais, quand tu regardes l'effectif, T'as Pejčinović qui est titulaire en défense. T'as Rebus aussi qui est présent. Et puis t'as Eder, ce bon vieil Eder qui a marqué ce week-end. Puis t'as aussi des joueurs, alors qui jouent pas forcément. T'as Corluca qui joue pas, mais qui est aussi un nom qui nous parle. Manuel Fernandez. Et surtout Farfán qui est leur meilleur buteur, qui a encore marqué un doublé lundi soir. En match en retard en championnat. Harry aussi, je sais pas ce qu'il a, mais moi c'est un joueur que je trouvais très bon avec Krasnodar. Je vois qu'il a joué que 2 matchs cette saison pour un but. J'imagine qu'il est blessé, j'avoue ne pas avoir étudié. Mais si tu combines les résultats de cette équipe-là avec le fait que tu vas devoir te déplacer en Russie en février, si eux n'ont pas eu les jambes coupées par la trêve, je pense que ça s'annonce très très compliqué. Je sais pas si tu te souviens, mais Nice à Krasnodar l'an dernier, ok, Nice en compétition européenne, enfin la C3 l'an dernier, ils l'avaient abordé à l'envers, t'avais Malang-Sar qui se trouvait à tous les matchs, etc. N'empêche que Krasnodar, ça avait été très très compliqué, même au retour, je pense. Je pars pas optimiste, à voir, hein, mais je. Ça, tout du tirage où tu te dis c'est jouable, et en fait c'est pas jouable parce que t'as de grandes chances de pas exister là-bas. Et je veux dire, même le Barça à l'époque avait du mal au Rubin Kazan, jouer en Russie, c'est quand même particulier.
Puis il faudra voir aussi où on est Nice sur le plan du championnat parce qu'ils sont en train un petit peu de relever la tête là sur les 2-3 dernières journées. Je crois qu'ils sont à 2 ou 3 victoires d'affilée. Et peut-être que s'ils continuent ce redressement, peut-être qu'on repassera dans l'autre sens, c'est-à-dire que le championnat sera la priorité. Peut-être que la Coupe d'Europe sera pas forcément jouée à fond. Il faudrait voir le calendrier de l'équipe à ce moment-là, mais je l'ai pas sous les yeux et de toute façon il faut enchaîner parce qu'on commence à être pressé par le temps. On va finir avec Lyon-Villarreal. Bah Christophe, de toute façon, tu as vu le Villarreal dimanche face au Barça. Donc tu vas pouvoir en parler. Mais surtout pour répondre un petit peu à Bernard Lacombe qui comparait quand même le style de jeu de Villarreal à celui du Barça. Ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est comme sa comparaison Mapou Marius Trésor quoi. Il a quand même un petit historique de comparaison qui n'ont aucun sens. Ouais, alors si vous allez sur le Libero Lyon, je donne une interview à Hugo à ce sujet-là, mais je vais quand même redire quelques mots. Villarreal, une équipe qui joue en 4-4-2. Bloc médian assez solide avec Marcelino qui maintenant joue alors en 4-3-1-2, tu peux même dire 4-1-2-1-2 en losange avec Calera, leur nouvel entraîneur depuis quelques mois, qui est l'ancien entraîneur des U19, de la réserve, des espoirs, etc. au sein du club. Mais c'est une équipe qui joue donc avec un numéro 10 qui sert deux attaquants qui généralement partent en profondeur à toute vitesse, Bakambu, Baka. Qui a parfois la possession, mais qui n'est absolument pas une équipe de possession, qui l'a parfois et qui a un jeu au sol, mais comme quasiment toutes les équipes de Liga. Donc c'est vrai que pour ça, c'est spécifique, parce que malgré tout, même les équipes qui ne jouent pas trop en Liga jouent quand même plus au sol et moins les duels aériens que celles de Ligue 1, par exemple. Mais pour une équipe espagnole, c'est finalement une équipe assez solide. Alors, qui prend beaucoup de buts, mais qui, dans l'idée, joue avec un bloc assez reculé. C'est compact, assez bas, et en gros, dont l'objectif, un petit peu, c'est la comparaison que je fais, mais un peu comme le Séville de Emery, qui faisait des beaux enchaînements offensifs, mais sur des transitions, ça partait vite, ça rejouait en 1-2, et ça centrait, il y avait but. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que la possession de Villarreal, c'est une possession qui est assez basse, qui n'est pas dans le camp adverse, et le but, c'est que notamment Fornals, leur numéro 10, ou Castillejo, qui joue maintenant plus reculé qu'avant, qui est une espèce de relayeur numéro 8 qui peut se projeter, mais qui est dans l'axe, hein, parce que comme ça joue en losange, donc t'as pas d'ailier, bah ça va chercher la bonne passe, quoi. Comme ça, à l'époque, c'était Banega qui essayait de servir Baka, bah là, c'est Fornals qui va essayer de servir Bakambu. Et honnêtement, c'est une équipe Villarreal qui, pour moi, est meilleure en transition, qui ne joue pas que la transition, donc c'est pas comme les matchs où Lyon contre l'Ajax ou contre Beşiktaş, ça partait d'un but à l'autre, ça courait partout. Là, c'est simplement on pose le tempo et bim, on va chercher la passe qui fait la différence. Un petit peu aussi, avec moins de préparation, mais un peu ce que faisait Nice l'an dernier aussi, avec Cyprien qui parfois cherchait le chaos ou série sur une transmission pour player en profondeur. Mais c'est une équipe qui joue à un tempo assez lent, qui dribble très peu, je crois que c'est 6 dribbles par match, c'est. Pas loin d'être la moyenne la plus faible en Europe, il me semble. En tout cas, c'est la moyenne la plus faible de dribbles réussis par match en Liga. Mais il n'y a pas la notion de beau jeu, de tiki-taka que tu as à Barcelone. Et là, d'ailleurs, contre Barcelone, ils avaient ouais, 25-30% de possession. Et ils jouaient les contres à fond. Et ils étaient très à l'aise là-dedans. Et d'ailleurs, après le match, tu as Valverde qui dit oui, c'est une équipe qui coupe bien les angles de passe, qui densifie bien le milieu et qui est une bonne équipe de contre. Donc, c'est-à-dire que personne en Espagne n'a identifié Villarreal comme étant une équipe joueuse. Donc, faut que Lyon s'attende à affronter une équipe qui sera, en tout cas, qui va essayer de jouer au sol, mais qui sera quand même solide. Donc, ça va être un match particulier. Il ne faut pas s'attendre à de la folie et à espérer mettre des contres en permanence, parce que Villarreal ne va pas se découvrir pour le plaisir de se découvrir. Ses milieux ne jouent pas très très haut. Et si en plus, tu as le retour de Bruno Soriano, leur capitaine, qui est en ce moment blessé, il n'a pas joué de la saison. Je ne sais pas si, je t'avoue que je n'ai pas la durée de son indisponibilité en tête. Mais s'il revient, ça sera encore plus solide, parce que lui, même s'il joue au sol, c'est un pur numéro 6 vraiment qui stabilise tout ça. Donc, sur le papier, j'imagine pas une folie offensive avec plein de buts. Je pense que si les Lyonnais attendent ça et espèrent profiter des contres,
Oui,
ils seront
certes.
déçus. Je pense que tu auras plus Aouar qui va faire des différences, et Fekir qui va faire des différences, que Memphis ou Traoré, si Traoré revient, sur des contres, parce que tu auras de l'espace, parce que Villarreal jouera très haut.
Bon, eh ben, on verra ça en février. On a fait le tour pour ce 18e podcast de la saison. Un podcast donc à retrouver. On va faire un petit peu la promo sur SoundCloud pour nous écouter, évidemment. Il y a un Twitter, @VueDuBancPodcast. Il y a une page Facebook aussi, Vue du Banc. Et évidemment aussi, vous pouvez, et c'est même conseillé, c'est même espéré de notre part, laisser une note sur le podcast sur iTunes, ou un commentaire, ou les deux, si vous êtes très motivé. Ça nous permet un petit peu de remonter dans les classements. Et en fin d'année, quand t'as beaucoup les podcasts à écouter en 2018, c'est bien de remonter un peu plus haut dans le classement, tu vois, pour être un peu pragmatique, voire cynique.
C'est ça.
Voilà. Et ben, merci Christophe.
Bah merci à toi Florent de m'avoir écouté pendant mes longs monologues.
Et puis bah, rendez-vous à tous la semaine prochaine. Je sais pas de quoi on va parler, ça sera pas encore la trêve, donc il faudra trouver un ou deux sujets. Mais bon, on va trouver dans les fêtes. Salut, ciao!
C'est bordel.